Interview.
2 et c'est l'heure de l'interview avec au studio Sylvie Renaud. Bonjour.
Bonjour.
Sylvie Renaud, vous êtes artiste plutôt modéliste et couturière pour de la couture sur mesure, comme vous le précisez. Oui. Et vous êtes ici pour nous parler un peu de votre activité. On a pu déjà vous entendre le mois dernier pour cette participation au défilé de mode de Chloé Marcel. Oui. D'ailleurs, pour vous, quel en était ce retour ?
Bien, j'ai passé un moment très joyeux. C'était très, 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 j'ai envie de dire presque euphorique, quoi. Il y avait beaucoup de joie. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter mes modèles. Et puis voilà, ça ne m'a pas spécialement apporté des commandes ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai eu plaisir à le faire. Et je remercie beaucoup Chloé, qui est très très sympathique, très très patiente.
Vous aviez présenté quel type de modèle ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut les voir quelque part sur Internet ?
Non, parce que je n'ai pas de site Internet.
Mais il y a eu des retours de la part des organisateurs, je pense, sur certaines pages de réseaux sociaux. Est-ce que vous y êtes présente ?
Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de page Facebook.
D'accord.
Donc, je ne peux pas vous dire, mais j'y suis sûrement. Mais c'est difficile. Je pense que ce sera difficile de savoir quelles sont mes robes, parce que c'est un peu tout mélangé, quoi. En vrac, ça m'étonnerait qu'on puisse trouver mes robes avec écrit en dessous. Ce sont les robes de Sylvie. Alors, pour un gag, si vous voulez, je peux vous expliquer qu'une des robes qui était portée par ma fille, qui était bleue et très en tissu élastique. C'est une robe qui a été faite par moi, bien sûr, mais aussi avec une demoiselle qui était en stage de formation en classe de 3e. Elle a été en stage de formation chez moi. Elle pensait faire juste des petits apprendre à coudre à la machine, enfin un truc comme ça. Et je lui ai dit non, tu vas sortir avec ta robe, tu vas te faire une robe. Donc elle m'a apporté un bout de tissu et puis on a fait la robe ensemble. Je lui ai appris à faire la robe, je lui ai appris à coudre et elle est partie avec une robe qui lui plaisait énormément. Et puis lors du défilé, j'ai dit tiens, est-ce que tu pourrais me la prêter pour que... D'abord, je lui ai demandé si elle voulait défiler, elle m'a dit non. Et après, je lui ai dit est-ce que tu veux bien me la prêter ? Et voilà, c'est ma fille qui l'a portée et j'aime beaucoup, elle est très belle cette robe. On avait une... Pardon. Oui, il y en avait une autre bleue aussi pour faire un peu une harmonie, qui était elle, pas en tissu élastique, mais tissu chaîne et trame, c'est-à-dire non pas tricotée, mais tissée, et qui était très moulante, longue, pour montrer que mon métier, c'est vraiment le sur-mesure, et pour montrer que je peux faire une robe qui est très ajustée aux mesures du corps de la personne. C'est ça ma griffe, si vous voulez, c'est ça ma force, ma plus grande compétence.
Les modèles de robes proposés sont des robes plutôt pour des cérémonies ?
Non, c'était des robes... Enfin, celle de ma fille, là, oui. Enfin, cérémonie, non, mais elle aurait pu aller à un mariage avec. Une robe de soirée, oui, une robe de soirée. L'autre aussi, mais plus sobre, plus madame, tranquille, voilà, moins olé-olé. Et il y avait aussi une combi short que j'ai montrée moi-même parce qu'elle était ajustée à mon corps, à moi. Voilà, toujours pareil, sur mesure.
Alors, vous avez obtenu un diplôme de haute couture. Dans quel établissement ? Et qu'est-ce qui a été décisif sur ce choix de métier ?
Alors, c'est très simple, c'est que je suis tombée dans la marmite toute petite. Je suis née à Paris dans une famille de femmes ouvrières qui tiraient l'aiguille dans les ateliers de couture à l'époque. Il n'y avait pas encore le prêt-à-porter. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça. Ma mère m'a appris à coudre. Donc, ma mère, mes tantes, mes grands-mères, tout le monde cousait. professionnellement et aussi à la maison. Vous savez, à l'époque aussi, les mères de famille habillaient leurs enfants. On n'achetait pas les vêtements dans le commerce. Et donc, j'ai appris à coudre en même temps que j'ai appris à lire et à écrire. Et j'ai appris à tricoter, à faire du canevas, du crochet, tout, de la broderie, tout, tout, tout. Donc, j'ai envie de dire que je suis née avec des ciseaux et des aiguilles au bout des doigts. C'est quasiment ça. Et donc, quand je suis arrivée à l'âge de choisir mon métier, de choisir une orientation à l'école, enfin, au collège, j'ai dit, ben, je vais apprendre aussi à faire les patrons, parce que je savais coudre, mais je ne savais pas faire les patrons. Donc, j'ai fait une école, j'avais deux choix, je pouvais faire une école pour le prêt-à-porter ou une école de haute couture. Et j'ai dit, tant qu'à faire, allez, je mets la barre haut et je choisis haute couture. Donc, j'ai appris à faire le vêtement comme un artisan, si vous voulez, c'est-à-dire en pièce unique et du début à la fin. Donc, je suis extrêmement polyvalente. Un vêtement n'a aucun secret pour moi du début à la fin, de la première étape à la dernière.
Il y a c'est au lycée Taillandier que vous avez pratiqué cette formation en BTS, donc.
Oui, je l'ai reçu. Ça s'appelait le lycée Taillandier parce que c'était dans la rue Taillandier à Paris. Mais dans cette rue, ce lycée a changé de nom. Il existe toujours, mais je crois qu'il s'appelle Paul Poiret ou un nom comme ça. Et c'est un lycée qui fait aussi spectacle, cinéma, mais aussi couture. Et voilà, oui, il existe toujours, mais dans mon CV, c'est marqué que j'ai eu ce diplôme dans le lycée Taillandier.
Et donc, il y avait cette connaissance, peut-être aussi des rencontres avec des enseignants ou peut-être aussi des stylistes qui interviennent dans ces établissements. Est-ce que ça vous avait enrichi aussi au niveau de la création, ou alors vous aviez déjà vos idées préconçues et ce que vous aviez envie de créer?
Alors non, en fait, il faut bien dissocier le métier de styliste du métier de modéliste. Ce sont deux métiers très différents. Le styliste peut s'apparenter à l'architecte et le modéliste à l'ingénieur. Donc, et d'ailleurs, un modéliste, dans la convention collective, ça s'appelle aussi, une modéliste, ça s'appelle aussi un ingénieur du vêtement. C'est-à-dire que c'est vraiment la construction, la géométrie, etc. Mais je n'avais pas envie d'être styliste, c'est-à-dire d'imaginer la mode, vous voyez. Et c'est un métier qui est très mal connu, très peu connu, mais il en faut, parce que sans modéliste, il n'y a pas de collection. Les stylistes, ils vous dessinent des jolis croquis sur des dessins, sur des pages, mais quand on a fait, j'ai toujours dit ça, quand on a fait un beau dessin, on n'a pas fait une robe. Donc il vous faut une modéliste pour qui vous fasse le patron et aussi qui supervise toute la partie cousage auprès des personnes qui cousent. On appelle ça des mécaniciennes modèles qui font les prototypes. Voilà, donc pour diriger une mécanicienne modèle, il faut savoir parfaitement coudre aussi. Donc il faut que les deux... Il faut connaître les deux métiers, savoir faire les patrons et savoir coudre. Mais il faut avoir aussi un certain sens artistique, enfin pas artistique, mais de l'harmonie dans un vêtement. Parce qu'on travaille, on est le lien entre le styliste et les ateliers de fabrication, vous voyez. Donc on doit écouter les deux, connaître tout, connaître le stylisme et connaître la construction.
Donc, pour être ingénieur du vêtement, cela nécessite une connaissance de comment bâtir et dessiner, hein, même ses patrons. Est-ce qu'il existe d'ailleurs dans cette formation une histoire du patron? Est-ce que cette technique du patron existe depuis... est-ce que c'est une partie de l'histoire ou alors c'est assez récent?
Je pense que historiquement, on a toujours fait des patrons. On peut pas construire un vêtement sans avoir fait un patron. Enfin, c'est extrêmement exceptionnel. Même moi-même, je ne sais pas le faire, de couper un vêtement avec les ciseaux en l'air, comme ça, et dire, bah tiens, là, je vais faire une courbe, là, je vais faire une droite, là, je vais... Non, on fait toujours des plans, sauf peut-être qu'avant qu'il existe le papier, on faisait les patrons en tissu, si vous voulez. On faisait d'abord un patron en tissu, et ensuite, on se servait de ce patron en tissu pour le poser sur le tissu de la robe. Et voilà. Mais par contre, je peux vous parler du patron en vous disant qu'il y a deux techniques. La première, c'est le travail à plat, c'est-à-dire qu'on a une feuille, une règle, un crayon, une équerre, grosso modo, c'est ça. Et puis, on a les mesures de la personne et on a des théories dans la tête, des théories de calcul et de traçage. Et on les applique et on fait un plan voilà, qui est une première ébauche. Et puis ensuite, il y aura d'autres étapes après pour le peaufiner, pour le perfectionner. Et l'autre technique, elle s'appelle la méthode en moulage. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une toile à patron. Ça ressemble à du tissu de fond de poche, du coton, une toile de coton toute simple, blanche. Et on la jette sur le mannequin et on épingle et on construit comme ça. C'est déjà un peu plus proche de ce que faisaient les grands couturiers. C'est ce qu'on apprend en premier d'ailleurs dans une école de haute couture. On apprend d'abord le moulage parce que c'est ça la technique de haute couture, c'est le moulage.
Et qui est plus adapté à la corpulence de chaque personne en même temps.
Voilà, parce qu'on fait du sur-mesure comme ça. On peut plus. On prend un mannequin, on lui met de la ouate autour, on épingle de la ouate pour sculpter le mannequin aux mesures de la personne. Et ensuite, une fois qu'on a sculpté le mannequin, on fait son moulage. Et ensuite, on a des techniques pour après. Reprendre les morceaux qui étaient sur le mannequin. On écrit dessus, on fait des petits pointillés sur toutes les lignes et après on les met à plat, on les repasse et on les trace de point en point. Vous voyez, c'est très technique, très très technique.
À la suite de cette formation, vous vous êtes exercé donc comme salarié pendant 5 ans dans plusieurs entreprises. Est-ce que cela aussi vous a enrichi?
Absolument. Alors, pour le gag, j'ai trouvé du travail immédiatement, même avant même d'avoir mon diplôme. J'étais allée, à l'époque, ça s'appelait la NPE, je crois, l'Agence Nationale pour l'Emploi. Et il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. J'étais allée à la NPE, au mi-juin, par là, et je venais de passer mes épreuves d'examen. Et je suis allée à la NPE et là, j'ai vu une affiche au mur qui disait « Cherche toiliste débutante ». Ouais, c'était un pur miracle pour moi parce que pour être débutante dans ce métier, c'est un métier où c'était très difficile de faire sa place. Et c'était servi sur un plateau, quoi. Donc j'ai pris le petit papier, je l'ai tendu à la dame et j'ai dit « Madame, je veux, mettez-moi en contact avec ces gens, je voudrais ». Et j'y suis allée, j'ai eu un entretien et là je leur ai dit tout de suite « Ben écoutez, j'ai pas mon diplôme, pour l'instant je le saurai dans une semaine ». Et on m'a dit « Ben c'est pas grave, vous allez faire un essai ». J'ai fait un essai et j'ai été embauchée tout de suite, avant même d'avoir mon diplôme. Et bien sûr, après j'ai eu le diplôme et j'ai travaillé 2 ans. Mais après, j'ai beaucoup changé tous les ans, j'ai changé d'entreprise. Et ça m'a permis de faire du flou, du tailleur, de travailler pour l'homme, pour la femme, pour l'enfant, de beaucoup. Et c'est vrai qu'on apprend autant sur le tas qu'à l'école. Enfin, à l'école, j'ai appris des très bonnes bases quand même. Mais après, l'expérience, rien ne vaut l'expérience.
Et puis, vous vous êtes lancé à votre compte?
Oui, alors parce que j'avais une amie styliste avec qui je travaillais beaucoup, qui elle était indépendante, et puis elle m'a dit « Ah mais Sylvie, tu travailles tellement bien, moi j'adore travailler avec toi parce que tu écoutes bien ce que je te demande et tout, parce que j'ai jamais... » vous savez, il y a pas mal de modélistes qui sont des stylistes frustrés, et qui essayent de se la jouer styliste et qui essayent de faire le stylisme à la place du styliste. Et les vrais stylistes n'aiment pas ça. Et moi, j'étais une personne très... pas comme ça, j'ai envie de dire. J'essayais d'être le plus possible à l'écoute du styliste et de lui faire ce qu'il voulait, lui. Et ça, vraiment, tous mes collègues stylistes m'ont apprécié pour ça. Et donc, un jour, cette collègue, elle m'a dit « Mais Sylvie, mais t'es tout à fait capable de te mettre à ton compte. Tu pourrais monter un bureau de style et faire ça à ton compte plutôt que d'être toujours chez des patrons, etc. » Bon, et c'est sur son conseil que je l'ai fait. Elle m'a dit « Mais moi, je t'enverrai des clients. » Et effectivement, je me suis fait une belle clientèle. Ça a été assez rapide.
Et cela permet ensuite de suivre sur d'autres participations auprès de collections telles que Manoukian pour des entreprises qui sous-traitaient. Et en quoi consiste une sous-traitance d'une grande marque de mode ?
Ben, c'est parce que, par exemple, chez Manoukian, enfin, je ne sais pas si c'est toujours vrai, hein, mais à cette époque-là, Manoukian, c'était que des bureaux d'ordinateurs avec des gens qui étaient derrière des ordinateurs ou de comptables ou de gestionnaires ou de commerciaux, vous voyez, mais il n'y avait pas une seule épingle. Ils sous-traitaient, c'est-à-dire qu'ils donnaient à des entreprises, d'autres entreprises, la responsabilité de... C'est-à-dire qu'ils avaient une styliste indépendante qui choisissait et ils envoyaient cette styliste travailler avec... l'entreprise qui, elle, faisait les collections.
Et ouais. Ça continue un peu dans le principe sur peut-être d'autres
entreprises.
Oui,
j'imagine, mais sauf que là, malheureusement, l'industrie du textile a disparu de la France. Elle est partie à l'étranger. Il n'y a plus d'usines de fabrication de vêtements en France. Hein, pratiquement plus, j'en connais pas.
Sauf celles de grande qualité.
Peut-être, enfin oui, il reste les grands couturiers.
Oui.
Voilà.
Et puis les petites mains aussi. Hein.
Les petites mains comme moi.
Et par la suite, vous avez lancé aussi un catalogue de modèles. Alors, ce sont des modèles en partenariat avec l'Hélène Moer dans les Hautes-Alpes.
Oui.
Vous aviez donc, vous, avec votre formation de tricoteuse, hein, cette transmission, vous aviez élaboré donc un catalogue de propositions très diverses.
Oui, j'ai fait ça aussi à l'époque où j'étais maman, jeune maman. J'avais un peu lâché le métier, enfin je veux dire professionnellement, j'étais plutôt mère au foyer et je tricotais. Et j'ai rencontré j'étais très, comme donc j'avais quitté Paris, j'étais venue dans la Drôme, j'étais très proche des agriculteurs, des éleveurs de chèvres, qui faisait de la laine mohair. Et puis en discutant comme ça, je leur ai dit, mais si vous voulez, moi je vous fais des modèles. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'ai cherché un photographe qui d'ailleurs, bon, j'espère qu'il me pardonnera de dire qui il est, parce qu'il n'y a pas de honte. En fait, c'était Jean-Pierre Surle qui a pris les photos à l'époque, c'était il y a longtemps, hein. Qui avait pris les photos et pour ce catalogue, voilà, je m'étais occupée aussi de l'impression et voilà, donc j'avais travaillé pour ces gens-là. Oui. Je suis très polyvalente en fait. Tout ce qui est vêtements n'a aucun secret pour moi. Je sais vraiment de la toute première étape à la dernière, je sais tout faire.
Et quand bien même vous vous lancez également dans les accessoires d'ameublement, alors. Qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que modéliste comme accessoire ?
Eh bien, j'ai travaillé pour une structure d'accueil qui s'appelle La Pensée Sauvage, qui est à Beaufort. Et donc, j'avais fait des housses pour recouvrir des canapés. J'ai fait des rideaux, des coussins de méditation. Voilà, j'ai habillé un petit peu le lieu. Ben c'est pareil, ça demande des qualités de modéliste parce qu'il faut relever le patron du meuble, du fauteuil, du canapé. Et ensuite, il faut couper le tissu, coudre. Vous voyez, c'est toutes ces étapes, toujours les mêmes étapes. J'ai fait aussi, j'ai habillé des fauteuils au local de la corderie. Tout le monde peut ici les voir, ils sont visibles pour qui veut bien entrer dans le local.
Et 2022, vous participez également un travail autour du prêt-à-porter de luxe. Alors, prêt-à-porter de luxe, quelle est la différence avec celui plutôt courant du prêt-à-porter ?
Alors, je vous raconte un petit peu, je remets ça dans le contexte. Il y a eu le Covid pendant lequel j'ai arrêté. J'avais acheté un appartement, j'étais plutôt dans la rénovation d'appartements. Et puis, ma fille me disait, mais t'es pas une vieille dame, t'es encore en forme. Puis tu sais tellement, t'as tellement des connaissances dans la couture, tu pourrais très bien te relancer. Et puis, je m'ennuyais un peu et j'ai dit, je vais lancer mon profil sur Pôle emploi. Et comme une bouteille à la mer, vous voyez, je me suis dit, s'il y a un poisson qui mord, tant mieux. C'est pas un poisson ne mord pas une bouteille à la mer, mais bref. Et puis un jour, j'ai reçu un mail. Votre profil a attiré notre attention. Voilà, c'était une entreprise dans le Lot en 2022. C'était une boutique qui faisait des robes pour le Gala de Monaco, qui faisait des choses vraiment de luxe, avec des robes de la pure soie et tout ça. Et quand elle m'a dit ça, alors pour le gag encore, je lui ai dit, écoutez, on va essayer de ne pas perdre du temps, ni pour vous ni pour moi, donc je vais vous dire tout de suite tout ce qui pourrait faire que je ne pourrais pas travailler pour vous. Quand je l'ai eu au téléphone. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous avez vu mon âge ? Elle me dit, ça me va très bien parce que vous avez de l'expérience. Et puis, j'ai vu sur votre CV, vous avez été à votre compte, vous avez eu du personnel et tout ça. Donc, vous êtes, vous occupez d'une équipe, etc. Et puis, je lui ai dit que je travaillais à la main, que je ne savais pas faire les patrons. Parce que maintenant, les modélistes font les patrons sur ordinateur. Et moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas gérer l'image. Donc je lui ai dit, je vous préviens, je travaille avec du papier, un crayon, une règle, et c'est comme ça. Et elle me répond, mais c'est parfait, parce que nous, on a une entreprise à dimension humaine. Et donc, ça me va très bien, c'est ce que j'attends de vous. Je n'ai pas d'ordinateur, de toute façon, à vous prêter pour ça, etc. etc. Et j'ai tout fait pour essayer de la dissuader. Elle m'a dit non, c'est bon, est-ce que vous pouvez vous déplacer ? Voilà. Donc, je suis allée dans le Lot avec mon matériel et j'ai commencé à travailler. En me disant... En fait, je m'en fiche complètement parce que je n'avais pas travaillé quand même dans la haute couture depuis longtemps. Et je me dis, c'est pas grave, si elle ne me prend pas, c'est un commun jeu. Et en fait, j'étais tellement détendue, tellement relaxe que j'ai eu le poste. Et donc, j'ai fait, en 2022, donc dans cette entreprise, j'ai fait des robes qui passaient au Gala de Monaco. Et qui étaient vendues à des princesses, enfin, des femmes qui allaient dans les bals.
Et par la suite, début 2024, vous avez opté pour un statut d'auto-entrepreneur.
Voilà.
Et donc, vous lancez par vous-même dans cette création. En parallèle de ça, vous avez toujours pratiqué le papier et le dessin du modèle, le patron.
Parce
que c'est une passion qui vous tient depuis toute petite. J'imagine qu'avec même les parenthèses dues à l'existence, il y a toujours quand même cette balise au loin qui vous emmène.
Tout à fait, c'est très beau, merci. Oui, en fait, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et de déménagement en déménagement, j'ai toujours transporté mon mannequin, ma machine à coudre, ma planche, ma grande planche à tracer, mes grandes règles. J'ai plein de règles en métal. Il y a du matériel professionnel qui est très inconnu du public. Du matériel assez important, assez lourd. J'ai beaucoup trimballé ça partout avec moi. Je n'ai jamais habité de ma vie dans une maison où il n'y avait pas de machine à coudre. C'est impossible pour moi, c'est inconcevable. Et même, il y a toujours une machine à coudre installée. Si vous voulez, elle n'est pas rangée dans un placard. Il n'y a pas besoin de la sortir pour la mettre sur la table de la cuisine. Elle a toujours sa pièce à elle. Elle a toujours eu sa pièce à elle. Et parce qu'il y a une difficulté actuellement, c'est par rapport aux fournitures de tissus. On a de plus en plus de mal à trouver du tissu, sauf par Internet. Mais acheter du tissu par Internet, on ne le voit pas, on ne le touche pas. C'est compliqué. Et donc, en fait, pendant tout le temps où j'ai eu mon enfant, je l'ai habillé en achetant des vêtements de seconde main. Et je les retaillais pour avoir la matière, si vous voulez. Puis après, je les retaillais à mon goût, à son goût. J'ai toujours cousu un peu. J'ai toujours fait un peu là ce que... Il y a un petit garçon qui disait ah mais tu fais de la couture, alors t'es couturieuse. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça, j'aime bien dire que je suis couturieuse.
Et depuis donc vous proposez votre expérience hein, pour proposer des vêtements sur mesure à toute personne, et puis il y a aussi vous habillez également les animaux. Alors quels sont les animaux que vous habillez?
Bah, c'est-à-dire que ce que je propose, c'est je peux aussi faire un manteau pour un chien ou pour un cheval, je sais pas quoi. Je peux faire vraiment, si vous voulez, vu que je connais bien la géométrie de la construction d'un volume avec du tissu. Vous voyez, c'est pas forcément que des vêtements. Je peux habiller tout, en fait. Je peux habiller un meuble, je peux habiller une poupée, j'ai fait un plafond de yourt une fois dans ma vie, vous voyez. À partir du moment où vous avez les compétences pour vous projeter dans l'espace, c'est-à-dire que quand vous tracez un patron, vous le projetez dans l'espace et vous voyez comment ça va se placer quand ça va être soit sur la personne ou soit sur le... Vous voyez, je vous le redis, c'est très technique. Donc, yeah. Je peux faire tout ce qu'on peut me demander, n'importe quoi, de ce point de vue-là, vous voyez, si on me dit un truc complètement foufou, quoi, je sais pas quoi, si on veut une trousse pour un revêtement pour son ordinateur, ou pour une chaise, ou pour, je sais pas, je regarde autour de moi, je vois une pendule, vous voulez un chapeau pour votre pendule, je vous fais vous voyez, je suis vraiment une constructrice, voilà, je peux aussi bien faire le plan d'abord, et ensuite coudre.
Ça devient un domaine plutôt artistique.
Ben, presque. Oui. C'est entre les deux, quoi.
C'est un peu pour ça à Christo, hein, qui emballait les bâtiments ou des édifices.
Oui, pourquoi pas. Ouais. Si vous voulez. Si vous êtes artiste vous-même, que vous avez des idées, mais que vous ne savez pas les construire, vous pouvez faire appel à moi et puis faire appel à mes mains et à mon cerveau, quoi, qui vont vous construire. Moi, j'ai fait ça. Autant que j'ai pu travailler dans la mode, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté des gens qui me disaient, voilà, je voudrais ça comme ça, tu me le fais comme ça, tu me le fais comme ça. Et je faisais comme on me le demandait.
Voilà. Alors, il y a une question qui me vient, c'est par rapport à ces patrons qui sont, en général, on parle de coupes plutôt classiques, mais ce qui fait le style d'un créateur, c'est quelles modifications apporte-t-il ou fait-il apporter sur un patron pour renouveler un vêtement?
Alors, oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a deux genres, essentiellement. Il y a le genre classique et pas classique. Donc, un blazer classique, c'est un blazer 4 boutons ou 2 boutons avec un col, avec une seule couleur, qui est bien symétrique gauche et droite, qui a 2 manches avec 3 petits boutons en bas. Vous voyez, enfin, je parle pour les blazers d'hommes. Et puis voilà, vous avez des modèles, la jupe droite, le tailleur Chanel, les classiques. Et puis après, ben, tout ce qui n'est pas classique, c'est tout le reste. C'est quand on fait des trucs complètement ouf, complètement
mais qui sont, loufoques. Qui vont au-delà du patron classique, c'est de la création pure d'un nouveau patron.
Voilà, c'est là où justement on ne peut pas se passer d'une modéliste. D'ailleurs, alors sans vouloir dénigrer les gens, hein, mais globalement, une couturière de quartier qui se dit couturière et qui fait bon des ourlets, qui remplace des fermetures éclairs, elle ne sait pas faire un patron la plupart du temps. Elle achète ses patrons, elle fait des petites modifications, elle rallonge, elle modifie pour adapter à une taille ou une autre, mais c'est tout. Mais une modéliste, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment... c'est ça, c'est ce que je vous disais. Elle est face à un styliste qui a des idées complètement folles. Et elle va essayer de les réaliser. Alors oui, ça participe essentiellement du patron d'abord.
Et puis, au-delà de ces propositions hein, d'assistance, vous proposez également des cours de coupe et de couture individuelle ou collectif, et également des cours de tricot. Alors, ces activités, vous citiez tout à l'heure la corderie, est-ce que vous y participez justement à certains
Absolument,
ateliers ?
Absolument, bien sûr, je suis membre de la corderie presque depuis son installation à Die, depuis plus de 10 ans. Et je propose l'atelier tricot, voilà, au sein de la corderie. Mais je peux aussi donner des cours de tricot à toute personne qui veut me contacter, ou des cours de couture. Voilà, je peux aussi faire une part du travail. C'est arrivé qu'on me le demande, qu'une personne qui me dise « Ah ben, je voudrais faire un costume pour mon petit-fils, mais je sais que le coudre et je sais pas faire le reste. Donc, est-ce que tu pourrais faire le patron et le couper le tissu et tout, donc me le livrer en kit ?» Et après, moi, je ferai l'assemblage pour pouvoir avoir la fierté de dire à mon petit-fils que j'y ai participé. Vous voyez, je suis vraiment à l'écoute de toute proposition de travail, toute demande. Alors, un dernier exemple, encore ce matin. Vous savez ce que je faisais ce matin ? J'étais en train de retoucher une robe qui est une pure merveille, qui appartenait à l'arrière-arrière-grand-mère de ma cliente. Donc, c'est de la pure soie, c'est une pièce de musée, mais à la fois un vrai bijou. Et elle me demande de la lui retoucher pour qu'elle puisse la porter, elle. Donc vous imaginez avec quel stress j'approche, mes mains approchent de la robe. Vous comprenez ? Voilà, c'est le genre de travail que je peux faire. Et elle, quand elle me l'a donné, elle m'a dit « Oui, j'ai des copines qui savent coudre, mais il n'y a que toi qui peux faire ça.
» Sylvie Reynaud, vous êtes peut-être fâchée avec Internet, hein, on vous trouve très peu, à part un lien sur LinkedIn. Sinon, il y a une adresse mail pour vous joindre.
Oui, alors c'est sylvie.reynaud, ça s'écrit LT à la fin, comme les voitures, @n comme Nathalie, T comme Thérèse, ymail.com. Alors non, je ne suis pas fâchée avec Internet, ça va, mais j'ai pas. Alors, je ne sais pas faire un site Internet. Et aussi, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que vu que je fais surtout du sur-mesure et à la commande pour la cliente, je n'ai pas le droit de mettre des photos de la vie privée des gens, si vous voulez. Je ne fais pas de création, moi, à l'avance. Je n'ai pas de stock, je n'ai pas de magasin. Vous voyez, je fais une robe et je la livre à la personne. Puis je fais une robe et je la livre à la personne. Et la plupart du temps, les gens ne veulent pas être photographiés. Donc j'ai très peu de photos à mettre en ligne, vous voyez. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait une très belle robe de mariée et j'aurais rêvé de la mettre en ligne, mais je ne peux pas.
Un numéro de téléphone également pour vous joindre ?
Oui, c'est le 07 88 07 53 09.
Eh bien, Sylvie Reynaud, je vous remercie beaucoup d'être venue sur RDWA pour nous parler donc de votre maison de couture sur mesure. Et on espère pour vous une bonne continuité. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être interviewé par vous. Vraiment, c'est très agréable. Merci beaucoup.
Merci aussi. Bonne soirée.
Au revoir.